Well, it's got the
Radio Campus. Most exciting thing so far is in the treatment. Is in
la chose la plus
stimulante. Enjoy.
French Kiss.
Sexe et société.
Un mardi par mois sur Radio Campus 88.3. French Kiss.
Et ben voilà.
French Kiss.
Et ben voilà. Et ben voilà. Voilà. On est à l'antenne. 3, FM,
bonjour à toutes et à tous les French Kisseurs. Vous me voyez pas, mais j'ai dansé sur et le générique.
Moi, j'ai fait une petite story. Je vois Cory qui fait du pump-up aussi derrière, donc c'est cool.
Ouais, j'ai vu Cory faire du pump-up. C'était très beau. Merci Cory. Bonjour à toutes et à tous. Donc, vous êtes sur French Kiss sur Radio Campus Orléans. Je suis en compagnie donc de Cory, du Doc et de Julien.
Bonjour.
Et de notre invité. Je laisse encore planer le mystère. En tout cas, nous, on est là pendant une heure pour vous faire passer un bon moment. Parler de vous, parler de nous, parler de nos corps, de nos cœurs, de l'été qui arrive, lol, de la chaleur, les cocktails, les tatouages, la drague, la drogue, bref, tout ça. Je ne sais pas si j'avais déjà fait cette intro.
Si.
Le principe de l'émission, vous le connaissez, c'est interagir avec nous, s'il vous plaît, sur Twitch. Donc, c'est radio-campus-orléans. Et sur Insta, on est aussi connecté sur French Kiss Campus. Donc, c'est vous qui voyez. Mais c'est mieux de venir sur Twitch quand même. Je trouve qu'il se passe plus de choses. Donc, je vous encourage à venir sur Twitch. Voilà, on accueille aujourd'hui... pour cette super émission, Pylvie qui est à nos côtés. Bonjour Pylvie.
Bonsoir.
Oui, bonsoir. C'est vrai qu'on est 18h dans la tête d'année. Il est encore 9h30 du matin. donc voilà, on va parler de plein de choses ensemble avec toi Pylvie. D'abord, on a une petite tradition, c'est de faire une petite météo interne. Donc c'est savoir comment on se sent chacun autour des micros. Voilà, c'est le petit... Ouais, la petite météo interne, quoi. Enfin, voilà. Okay. Est-ce que le doc veut commencer ?
Eh ben, je commence. Météo frisquette ce matin, je me suis levé, prise de vélo pour la formation. Il faisait un petit peu frisquet, mais en vrai, petit soleil, petite journée tranquille. Et puis, bien content d'attendre, comme d'habitude, hein, l'émission, etc. Donc, je me suis préparé, je suis présent, le soleil est là, entouré de bonnes personnes. Donc, j'ai hâte de commencer cette émission. Tout va bien pour moi.
Tu peux passer la parole à qui tu veux.
Je donne la parole à Cory.
Bonsoir tout le monde. J'espère déjà que tout le monde va bien. Moi, ça va plutôt nickel. Je reviens puisque la dernière émission, je n'étais pas là. À cause de quoi ? Des examens. Mais maintenant, je suis là. Beaucoup d'administratifs depuis que je vous ai quitté en vous disant que j'avais enfin un stage.
Oui.
Bravo, bah, félicitations.
C'est déjà pas
encore
mal.
Encore une fois.
Donc voilà, on est là, et puis bah, je suis très content de vous retrouver ce soir, et puis bah, de pouvoir parler un peu de plein de sujets. Donc voilà, maintenant je fais place à Julien peut-être, pour sa météo interne.
Alors moi ça va, merci. je reviens de vacances, vacances que j'ai passées relativement sportives quand même, puisque j'ai préparé le premier triathlon de la saison, un triathlon S. Je pensais finir ça en 1h45 et 1h50, et finalement j'ai bouclé le tout en 1h25, donc j'étais plutôt
bon.
Plutôt content.
Wow, ouais.
Voilà, et puis bah, maintenant je passe la parole à Anaïs, et puis on finira par notre invitée pour savoir comment elle va.
Ok, et ben moi ça va, je suis très contente aussi de vous retrouver. J'étais en train de me dire qu'il va falloir que je vienne plus souvent dans le studio. Voilà, petite résolution du jour. Et beaucoup de travail en ce moment, donc voilà. Et puis des petits déboires que je me ferai un plaisir d'expliquer sur une prochaine émission. Je pense qu'il va falloir qu'on consacre toute une émission sur cette fucking congélation des ovocytes.
Ouais.
Voilà. Que j'ai essayé de faire, mais ça n'a pas marché, je vous l'annonce aujourd'hui. En tout cas, la météo interne de Pylvie s'annonce sans doute plus, je sais pas, peut-être plus ensoleillée que la nôtre.
Moi, ça va très bien. Je vais vous faire une météo interne assez brève, je pense, parce que je me présenterai peut-être plus en détail après. Ou...
Oui, exactement.
Oui.
Non, ça va très bien. J'ai passé toute la journée, pratiquement toute la journée, à dessiner. J'ai deux enfants ados. J'avais mon fils malade qui était là aujourd'hui. Donc, il y a quand même eu un petit peu de, on va dire, de été un peu mouvementée à ce niveau-là, mais sinon tout va très bien. Voilà, je suis ravie d'être avec vous et c'est ma première radio, donc je trouve ça super.
Ah, super, bah, plaisir partagé, on est très, très fiers de t'accueillir pour cette première radio.
Merci.
Donc du coup, donc, on a l'habitude de faire cette petite météo interne et puis ensuite on fait un petit tour des news, un peu revue de presse de ce qui s'est passé dans l'actu sexe, drogue et rock'n'roll. Enfin voilà, c'est chacun dit ce qu'il a retenu un peu de ses actualités. Et puis ensuite, on va rentrer dans le grand vif du sujet, ce vaste sujet. Alors, je ne sais pas, j'ai vu sur le petit conducteur que chacun avait une petite news, Cory, Julien, Doc. Voilà, moi j'en ai une minuscule, alors peut-être que j'ai commencé, mais vraiment ridicule. J'ai reçu un spam, alors j'ai reçu un spam sur WhatsApp. Et donc, évidemment, je ne me suis pas dit que c'était un spam. J'ai reçu un message, soi-disant, du fondateur d'Abricot, donc le site de rencontre, qui me disait « Hé, Anaïs, ça va depuis le temps tu te souviens de moi c'était quoi Comment va ta vie amoureuse en ce moment ?» Enfin, voilà. Et donc, je me suis dit que c'était forcément une relance tout à fait commerciale, vu que je ne connaissais pas cette personne, d'Abricot, sur lequel j'ai dû m'inscrire jadis. Et j'ai trouvé ça assez fort quand même. Enfin, assez fort, ça m'a pas plu de ouf qu'il me contacte sur WhatsApp. Donc, je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais moi, je me suis dit, waouh, voilà.
Ouais, effectivement, comme on l'avait dit, maintenant, les méthodes de hook deviennent de plus en plus efficaces. Et vu que les numéros maintenant sont ouverts comme au SMS et WhatsApp, juste avec le numéro de téléphone, on peut te contacter. Il y a des nouvelles méthodes avec des petits coucou parce que tu t'attends pas à recevoir un message commercial sur WhatsApp. Donc, C'est comme on dirait, les gens deviennent de plus en plus intelligents et se rapprochent de nouvelles méthodes pour toucher un plus grand monde.
L'intelligence du mal n'a pas de limite. Hein.
Oui.
C'est ça. Donc voilà pour ma petite news de rien du tout. Donc au prochain, prochaine news.
Moi je vais enchaîner. J'avais une petite news aussi. C'est vraiment très rigolo vu que en plus le sujet d'aujourd'hui qu'on va vous mettre un petit peu en avant juste après. J'ai trouvé assez marrant. Il y a encore eu une étude qui corrèle entre la taille du pénis et la taille de la voiture, notamment de la cylindrée. J'ai trouvé ça encore marrant qu'on le remette encore sur la table. Et c'est la science qui le dit, les propriétaires de voitures de sport auraient de petits pénis. Je vous passe les détails, on pourra vous remettre, si vous voulez, les petites sources, mais vraiment, il y a une corrélation entre la taille du pénis et l'estime de soi. Et en fait, vu que l'étude a été... Enfin, c'est une grosse étude, hein, ça a été quasiment pris sur 170 hommes. Grosse étude pour ce genre de sujet, hein, bien sûr. Et en fait, ce qu'on montre, c'est que effectivement, pour la défaillance symbolique de ne pas être bien soi-même, alors les gens vont acheter une voiture et après, ils sont allés chercher en fait les mesures avec des espèces de techniques un petit peu en soum-soum pour avoir des informations sur la taille du pénis. Et en fait, cette défaillance symbolique qu'ils vont essayer de compenser en achetant une grosse voiture est en parfaite corrélation avec la taille de leur pénis. Donc, effectivement, les gens qui ont besoin de virilité, donc pour compenser la taille de leur pénis, parce qu'on considère qu'un petit pénis, c'est du coup pas viril, alors ils vont acheter une grosse cylindrée. Et du coup, ce serait en lien direct avec l'estime de soi. J'ai trouvé ça marrant qu'on en ressort encore un petit truc. Et puis, le sujet du jour, il était correctement lié. Donc, je pense que c'était marrant.
Ouais, tout à fait. C'est assez rigolo, ouais. Oui, Julien, tu ris à distance, oui.
Oui, ça me fait marrer. Ça me fait marrer. ce besoin de compenser. Enfin, voilà, c'est... Cory ou moi sur les...
Comme tu veux, tu peux commencer, je t'en prie.
Moi, j'en ai une. C'est une maladie, en fait, qui est assez peu connue, notamment puisqu'en fait, ça fait peu de temps qu'en fait, on a des cyclistes professionnels. Enfin, il y en a eu beaucoup pendant les années 80 et il y en a... de nouveau un bon paquet. En fait, ça s'appelle la maladie de la vulve de la cycliste et c'est une maladie qui apparaît effectivement quand on fait beaucoup beaucoup de vélo. A priori, ça fait un gonflement d'une des vulves et des fois ça devient très d'une des lèvres, pardon, et ça devient très dérangeant. Il faut parfois opérer pour faire une réduction puisque c'est un tissu qui finit par avoir une inflammation continue. Et en fait, on se rend compte que, pareil, hein, chez les hommes, il y a aussi ce même genre de problème et que souvent, on a ce problème parce qu'on met des sous-vêtements sous son cuissard de cycliste et où on ne va pas acheter non plus de cuissard avec une peau de chamois qui, normalement, permet finalement d'amortir les...
Vraiment les frottements, voilà, et les frictions.
Et donc, ouais. Du coup, on se rend compte que chez les femmes, il y a déjà peu d'études qui ont été faites chez les hommes pour ce genre de trucs. peu de gens qui savent comment bien l'utiliser. Et du coup, chez les femmes, il y a quelques études à faire un petit peu plus à... peut-être pour adapter un peu sur la morphologie des selles qui sont légèrement différentes pour réduire le côté de cette inflammation. Et puis après, moi, j'avais une autre petite news qui est tombée hier soir, le petit vomi du soir. On a appris avec grand plaisir que Johnny Depp, avec toutes ses accusations qui ont détruit sa carrière, venait de signer le plus gros contrat des égéries masculines. 20 millions, non, mais c'est incroyable.
Et bah oui, bien sûr. En plus, c'est sûr, tout le monde revient encore en disant oui, il n'a pas été... ses accusations ont été vraiment prouvées. Aujourd'hui, c'est plutôt sur la diffamation et c'est là qu'il y a une erreur dans l'échange et le transport d'informations. C'est sur la diffamation qu'il a gagné, entre guillemets, gain de cause, mais pas du tout sur les accusations de violence conjugale où il a été vraiment, là, c'est avéré. Donc voilà, c'est de la désinformation, mais malheureusement, même s'il est coupable, il a quand même un très beau contrat. Oui. Et de l'autre côté...
sa vie a été détruite.
Exactement. Et de l'autre côté, on a une femme qui est mise de côté par la société. D'ailleurs, elle a prévu un déménagement à Madrid. Et il y a plein de gens sur les réseaux. On ne veut pas le dire en Europe, nanana. Donc il y a vraiment, en fait, deux sons, deux ambiances, quoi.
Il y a Prince Calypso sur le chat qui dit la fameuse destruction de carrière des hommes célèbres.
La fameuse cancel culture.
Exactement.
Voilà. Ouais, exactement.
Surtout que tout va bien pour lui parce qu'il a retrouvé déjà de l'emploi avec qui Maïwenn. C'est bizarre.
Il va monter les marches ce soir.
Oh purée.
Ah bah oui. Ah bah attendez. C'est pas voilà. Enfin je sais pas hein, moi demain. Enfin moi je suis un homme. Je m'en sors quoi. Je m'en sors tout le temps.
Oui, on s'en sort tout le temps, pas de problème.
Et toi, Cory, t'as une petite news pour nous?
Ouais, moi, j'ai fait un peu le petit tour des études et tout, et j'ai appris, selon une grosse étude qui a été relayée par le Huffington Post, qu'apparemment, le sexe matinal serait bon pour la santé, parce que si on est du genre un peu grognon le matin et qu'on ne peut pas forcément adresser la parole, on est en mode « je suis grognon » et tout, et bah, il se trouve que les rapports sexuels libéraient une substance qui pourrait aider... qui est la dopamine.
Dopamine.
Donc, hormone du bonheur, donc une meilleure journée, améliorer la cognition, mais aussi la concentration. J'ai vu aussi que ça permet aussi l'orgasme de déstresser tout ce qu'on va recevoir dans la journée, être mieux préparé à tout le stress qui pourrait être accumulé. Et aussi que pour ceux qui aiment le sport, un rapport sexuel permettrait de brûler 5 calories par minute. C'est pas une bonne séance à la salle de sport, mais ça revient à une belle marche rapide à peu près.
Tout dépend de ta séance.
Tout dépend si on fait de la grosse gym dès le matin ou si on est sur un petit jogging.
Un petit jogging, quoi. Merci pour cette news, Cory.
Voilà.
Ah ouais, c'est intéressant ça. Dis donc, je vais réfléchir le matin, moi, au lieu d'aller marcher là. Très bien, merci pour cette petite revue de presse très très intéressante pour briller à la machine à café. Ça fait plaisir. Du coup, alors on va rentrer dans le vif du sujet.
Je pense qu'on va pas faire de pause musicale parce que l'émission est dense.
Voilà. Oui, tout à fait. Oui. Puis tout le monde a envie de savoir qui est Pylvie, pour ceux qui ne la connaissent pas. Donc je sais pas, Julien, est-ce que tu veux introduire Pylvie? Est-ce que tu veux introduire ce sujet? Je sais que ça te plairait peut-être.
Merci. Alors, Pylvie, j'ai découvert sur Instagram via du contenu pédagogique, je crois, une meuf qui avait partagé une screen capture de ce que tu faisais, Pylvie, dans un groupe qui s'appelle Nurchi de Féminas Gull, pédagogie féministe vénère. Et donc, du coup, j'avais vu ce screen et du coup, je me suis dit, tiens, je vais aller suivre ce qu'elle fait sur...
Je t'interromps. C'était mon ancien compte alors, non?
Oui, c'était l'ancien.
Ouais.
Juste avant...
J'expliquerai après, ouais.
Donc Julien, c'est un OG, quoi. Il est là depuis le début.
Ouais, c'est un OG, ouais.
Et donc, du coup, c'était juste avant qu'il disparaisse, voilà.
OK.
Donc, j'ai vu la capture, j'ai cherché, et du coup, ton compte avait disparu, et j'ai retrouvé le suivant. Et c'est là que j'ai commencé à suivre. J'ai commencé à suivre et puis de fil en aiguille, j'ai trouvé le contenu pédagogique super intéressant et avec une explication qui était plutôt bien faite. J'en ai souvent parlé d'ailleurs dans les émissions. J'ai souvent fait la promotion de ton Insta, dire voilà, il faut aller suivre parce qu'il y a un bon contenu. Et on cherchait un thème d'émission pour cette semaine et à un moment, on s'est dit ça serait bien quand même un moment qu'on... qu'on parle des hommes aux hommes et de ce problème que sont les mascus. Et je me suis dit, il y a quand même quelqu'un qui, pour moi, référence dans mon spectre, c'est Pilvi. Et on s'est dit qu'on allait retenter d'inviter quelqu'un à distance, puisque maintenant, on arrivait à avoir nos marques, on était un peu plus à l'aise en technique. Et voilà pourquoi eh bien, aujourd'hui, on accueille Pilvi dans notre émission.
Et là, normalement, un petit bruit d'enfant. Ouais. Comme ça, oui, mais bon, on n'a pas encore la technique.
Au fond de moi, il y a un bruit d'enfant qui crie. Enfin, je suis au bord du stress. Hein, faut pas.
Et c'est surtout que Pilvi, alors avant qu'elle se présente elle-même, se définit sur Instagram comme vieille aigrie woke. C'est ça. Alors, puis il y a quelqu'un qui complète une honte pour ses enfants. Son père l'a déshérité. Elle finira seule avec ses chats.
Ouais, alors, c'est une bonne. Ouais, c'est un bon résumé. Ouais.
D'accord, alors bah, si tu veux compléter, c'est libre à toi.
Bon, bah, déjà, bonsoir à tout le monde et puis merci pour l'invitation. Effectivement, j'ai un compte Instagram qui existe depuis... celui-ci, il existe depuis un an presque. Mais sinon, mis à part ça, donc, je suis une femme cisgenre. Je suis franco-finlandaise. J'ai 45 ans, j'ai deux enfants. Qu'est-ce que je peux dire d'autre aussi qui soit intéressant? J'ai une première carrière qui était une carrière dans l'immobilier de luxe à Paris. Et maintenant, j'ai complètement changé de... Enfin, je me suis... Enfin, ça... Tout a changé dans ma vie. Je suis à la campagne. J'ai un nouveau projet professionnel qui est artistique, donc de la sculpture. Mm-hmm. Donc, c'est en cours. Et puis, je ne sais pas jusqu'à quel niveau de détail je dois aller.
Celui dans, avec lequel tu es en confort, tout simplement.
Bah, je sais pas, qu'est-ce que je peux dire.
Comment tu te présentes par rapport à ton projet que tu portes sur Instagram, par exemple?
Alors ça, c'est encore ça, c'est autre chose. Déjà, je vais préciser que je suis pas du tout psy, je suis pas sociologue. Donc en fait, mon expertise, entre guillemets, du sujet, c'est vraiment quelque chose qui s'est construit au fil des années sur Instagram. C'est-à-dire que mon compte, il a fait beaucoup réagir et puis petit à petit... Du coup, je me suis posé des questions et puis je me suis renseignée et j'ai commencé à analyser. Et donc, je parle pour moi, en fait, même si je suis très, comment dire, je fais les choses de façon très, très, comment dire, pas précise, mais j'essaye vraiment de me renseigner avant d'avancer des choses. Mais voilà, je suis pas sociologue, quoi. Je préfère bien le préciser, quoi. Donc, mon expertise, elle vaut ce qu'elle vaut. Mais sinon... Sur le compte Instagram, j'ai eu un premier compte pendant 6 ans, qui a été donc supprimé en juin 2022. J'ai créé un deuxième compte dans la foulée, mais je ne l'ai pas tout de suite alimenté parce que j'étais un petit peu... Enfin, ça m'avait foutu un petit coup au moral quand même, parce que j'avais écrit pas mal de choses, j'avais vraiment toutes mes archives, j'avais pas eu le temps de tout enregistrer, donc c'était un petit peu déprimant, donc je me suis un peu reposée pendant l'été, et puis j'ai recommencé à poster, à créer du contenu en septembre dernier. Voilà. Donc c'est là où j'ai vraiment repris. Le premier compte a été supprimé à cause de signalements. Ça faisait des années qu'on me signalait beaucoup. C'est clairement des signalements de personnes qui correspondent au profil masculiniste. Hein. Donc c'est des gens qui sont signal massivement, et il y a un jour où je pense que j'ai eu un raid, certainement que mon compte a été partagé quelque part, puisque ça s'est passé en quelques minutes, j'ai quasiment, enfin, plus de la moitié de mes publications qui ont sauté, et à chaque fois, ça me donnait un message comme ça qui disait le contenu contrevient aux règles d'Instagram, et c'était signalé pour sollicitation. Et ça, c'est super drôle, en fait, parce que justement, je ne sollicite pas. Donc, c'était rigolo, quoi. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Au départ, c'était pas du tout ce que c'est maintenant. C'est-à-dire qu'au départ, j'ai créé un compte Insta pour être tout simplement en contact avec mes amis. Comme j'étais parisienne avant, que les gens sont tous loin, je trouvais ça hyper pratique. Donc, ça a été une évolution vraiment, on va dire, organique. Ça s'est fait petit à petit. Et puis, je me suis jamais dit à un moment, tiens... Mon compte, ça va être un observatoire des interactions hommes-femmes sur Instagram ou sur les réseaux. Ça va être une expérience sociale, mais c'est ce que c'est devenu, en fait. Mon compte, c'est vraiment comme ça que je le vois. C'est vraiment une expérience sociale. C'est comme ça que je le vis. Et je crois que la plupart de mes abonnés, ils le voient comme ça aussi, quoi. Parce qu'il fait énormément réagir. pour un compte assez petit, en fait, il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'interactions. Et donc voilà, qu'est-ce que je peux dire d'autre ?
Après, tu l'alimentes beaucoup aussi.
Tous les jours, ouais. Tous les jours, je fais des stories. Donc en fait, ce qui s'est passé, pourquoi est-ce que ça a évolué, c'est que au bout d'un moment, mais ça, c'était pas au tout début, hein, c'est vraiment, ça a pris quand même du temps. C'est-à-dire, plus j'avais d'abonnés, plus il était vu. Donc au début, ça n'arrivait pas. Mais quand il a commencé à être vu par des gens qui... Parce qu'il a toujours été public. Là, j'ai commencé à me rendre compte qu'il y avait des messages que je recevais en DM qui étaient très similaires. Des commentaires qui se ressemblaient, qui se répétaient. Donc je me suis dit, ouais. Donc j'ai commencé à screener. Puis moi, j'aime bien répondre parce que j'ai un côté un petit peu comme ça, facétieux. Donc si on m'insulte ou si on me dit des choses un petit peu méprisantes, tout ça... Moi, j'aime bien rigoler, quoi. Donc, c'est vrai que si du coup, ça donnait des échanges qui étaient un petit peu divertissants, quoi. Il y a pas mal de gens qui me suivent. Parce que voilà, quoi, c'est rapidement très drôle. Donc, j'ai commencé à screener. Et puis, il y avait des choses qui revenaient très souvent. Mais vraiment des trucs auxquels je n'avais pas pensé avant. Parce que moi, je n'étais pas sur les réseaux. Mon seul réseau social... c'est Instagram. J'ai des comptes sur d'autres réseaux, mais je les utilise pas, en fait, parce que très rapidement, je les laissais tomber. Je trouvais ça pas, enfin, c'était moins intéressant pour moi, quoi. Moi, j'aime bien Instagram parce que, en fait, c'est un petit peu comme, j'aime bien le fait d'avoir une page de présentation. On n'a pas ça, par exemple, sur Snapchat. Ou là, on a une page de présentation. On peut avoir des photos, des textes. On peut avoir des stories à la une. Ça fait messagerie en même temps. Donc moi, j'aime bien parce que je peux avoir tout sur le même support. Et donc commençais à avoir de plus en plus de messages, mais qui je pouvais les regrouper dans des comme dans des thèmes, en fait. Donc j'ai commencé à créer des dossiers dans ma galerie de mon téléphone, et puis par thème je commençais à mettre mes screens, et puis petit à petit je voyais qu'il y avait des gens qui me disaient: ah, mais j'aime bien en fait ce que tu partages en story, ouais, c'est moi aussi j'ai vécu ça, etc. Ouais, tu mets les mots sur ce que je pensais. Donc voilà, petit à petit, en fait, ça a évolué. Et puis quand j'ai perdu mon premier compte, donc l'année dernière, mon compte était déjà tel qu'on le voit aujourd'hui. Mais on va dire que c'était un tout petit peu moins organisé. C'est-à-dire que si on allait dans les publications un peu plus anciennes, parfois il y avait des photos sans texte, etc. On va dire que c'était un peu plus, je dirais, bordélique, en fait. C'était moins... Et quand il a été supprimé, je me suis dit: qu'est-ce que je fais ? Alors, il était hors de question que je recommence pas, parce que moi, je suis quelqu'un, je suis une tête de mule, donc plus on m'attaque, plus je me dis non, mais vous n'allez pas gagner. Donc, il était hors de question que je ne fasse pas de second compte. Et puis, alors, je me suis vraiment posé la question, je me suis dit: comment je le fais ? Je me suis dit, je vais le faire encore mieux, en fait. Il va être plus organisé, je vais organiser mes stories à la une, je vais les classer par thème, je vais vraiment tout bien faire. À chaque fois que je ferai une publication, il y aura une photo, un texte. Donc c'est pour ça que quand j'ai repris, je l'ai refait de la même façon, mais on va dire plus, un tout petit peu plus pro, quoi. Voilà. Aujourd'hui...
Je me permets de rebondir sur ça de façon plus
oui,
pro.
Je parle beaucoup.
Non, mais il n'y a pas de souci. Mais ça permet de rebondir quand il y a des choses que je trouve intéressantes. Tu dis un peu plus pro. Je vois que tu as une espèce de méthode un peu, c'est photo de toi, puis ça slide vers le sujet du moment que tu traites, et pas l'inverse. Oui. Il y a beaucoup de gens qui vont parler un peu genre du principe du clickbait. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus ?
C'est complètement ça, oui. C'est-à-dire qu'en fait, moi, donc au départ, comme je l'ai dit, je ne l'ai pas fait exprès. C'est-à-dire que c'était vraiment que des photos de moi. Et quand j'ai commencé à écrire des textes, mes textes, ils étaient en dessous. C'est-à-dire que ce n'était pas derrière la photo. Il y avait juste une photo. Et puis, quand j'ai commencé à réfléchir à tous ces messages que je recevais, on pourra en parler après, parce que c'est des catégories, j'ai commencé à écrire des textes en dessous. Et puis, donc, je trouvais ça pas mal, parce que, en fait, le fait que mon compte soit un compte qui, a priori, est un compte de photos, ça permet de garder une présentation qui fait pas compte militant, à première vue. C'est-à-dire que du coup, je vais avoir des interactions avec des gens qui cherchent pas du tout du contenu militant, féministe, etc., et qui n'ont pas l'habitude d'en lire. Et du coup, ça permet des échanges avec des personnes qui sont pas du tout sensibilisées au sexisme, au féminisme, etc. Et je trouve ça vraiment pas mal, en fait. Parce que ça crée justement... Il y a quand même une partie non négligeable de mon compte qui est une partie, on va dire, un petit peu divertissement. Parce que même s'il y a toujours... Il y a quand même beaucoup d'analyses derrière... Je trouve ouais, c'est sympa d'être un petit peu divertissant quand même. Donc là, il y a de tout. Il y a tout qui arrive sur mon compte, quoi, vraiment. Alors que si on a les textes en premier, on n'attire pas les mêmes personnes. On n'a pas les mêmes personnes qui s'arrêtent pour lire.
Ouais, c'est une sorte d'attrape-nigo.
Ouais, nigo ou pas, alors, d'ailleurs.
Non, mais je rigole, oui, c'est vrai.
Non, mais oui, c'est ça, c'est carrément ça, c'est assumé. Et ça donne des trucs très intéressants parce que j'ai fréquemment, mais vraiment fréquemment, des mecs qui m'envoient des messages et qui me disent « Écoute, alors, le féminisme, j'y connaissais rien. J'étais même plutôt réfractaire, on va dire. Et depuis que je te suis, depuis quelques mois, j'ai évolué sur le truc. » Donc moi, je trouve ça assez sympa, en fait. Voilà.
Bien sûr. Oui,
t'as réussi à capter leur attention par ce biais-là, et c'est plutôt intelligent, en effet, ouais. Ouais.
Alors, ça n'a pas toujours marché, hein. On va dire que c'est un side effect assez sympa, quoi. Voilà, c'est tout.
Ouais, oui, c'est ça. Mais c'est marrant, parce que du coup, je pense que ton utilisation d'Instagram, elle est très spontanée, et c'est peut-être un peu ce qu'on perd de plus en plus sur certains comptes, où c'est tout est calculé, où tu vois, là, moi, tu me dis clickbait, moi, je ne comprends pas ces langages.
On dit clickbait pour cool pas dire putaclic, hein, parce qu'on n'aime pas du tout le mot français. En fait, clickbait, oui, c'est la version anglaise du mot français qui est tout à fait putophobe de putaclic.
Ouais, non, mais j'avais deviné, mais bon, c'est vrai que j'imagine, en fait, enfin, en tout cas, moi, ce qui me touche sur les comptes Instagram, c'est plutôt, en effet, l'éditorial spontané, où on s'est donné soi-même une sorte de ligne un peu artistique, ligne de conduite, etc. Et ça capte plus. Enfin,
je peux rebondir là-dessus, effectivement. Mes publications, toutes celles que j'ai écrites, donc il y a plein de sujets différents, hein, donc... Pour ceux qui ne connaissent pas mon compte, vous avez toujours une photo et puis après vous faites défiler et vous allez avoir des thèmes. Donc il y en a une qui va s'appeler dressage à la pudeur, il y en a une autre c'est pourquoi tu leur réponds, une autre c'est la mère et la pute, etc. Et tout ça en fait, c'est vrai que je les écris toujours entre guillemets spontanément, c'est-à-dire que c'est toujours suite à un échange particulier que j'ai eu avec quelqu'un qui à ce moment-là, il y a eu un truc, on va dire, de trop, entre guillemets. Et là, je me suis dit, non, là, il faut que j'écrive un truc parce que ça fait 50 fois que j'ai la même discussion. Et là, ça va plus. Et maintenant, il faut écrire. Donc, c'est vraiment, oui, il y a de la spontanéité, quoi. Après, dans les publications, il y a des trucs que j'écris vraiment qui sont plus des biais d'humeur. Et puis, il y en a d'autres où je mets une semaine ou même une. J'ai mis deux semaines à l'écrire. C'était celle sur les men going their own way. Donc, c'est... On dit ça, MGTOW.
Ça, on y reviendra plus tard. Mais
ouais, voilà. Donc là, j'ai mis longtemps. Donc, c'est le point de départ est spontané, ouais, en tout cas.
Ok, bah, c'est super. Moi, j'adore. Bravo. Bravo pour ça. Alors, du coup, on va rentrer un peu dans le vif du sujet. Alors, ça, c'est ma question préférée. Parce qu'en fait, de toute l'équipe, je suis la plus inculte. C'est ça qui est assez drôle.
Non, tu es la plus profane, souvent, pas inculte.
De quoi ?
Tu es la plus profane et pas inculte.
Ouais, d'accord. on va dire que ça me va. Mais en tout cas, les gars m'apprennent beaucoup, beaucoup de choses. Et c'est donc eux qui m'ont parlé de toi. Mais c'est quoi le masculinisme ? Comment tu définis ça ? Et comment tu le définirais pour quelqu'un qui débarque un peu, peut-être comme moi ?
Alors, je vais le faire dans cet ordre-là. C'est-à-dire que je vais d'abord donner la définition... qu'on a donné en fait un... Alors je crois qu'il est sociologue si je me souviens bien. Alors parfois je suis pas hyper précise parce que c'est de mémoire hein, que je vous dis ça, mais j'ai son bouquin en question, donc il s'appelle Francis Dupuy-Déry. Je sais pas si quelqu'un en a entendu parler ici.
Non, pas
en fait, c'est un... Si je me souviens bien, vraiment il est sociologue hein, de profession. Il a écrit un bouquin qui est très très intéressant qui s'appelle La crise de la masculinité. Donc en fait, il a vraiment étudié le masculinisme à travers les âges. Et lui, il donne cette définition-là, qui n'est pas la même que celle que donnent les masculinistes eux-mêmes. Donc lui, en fait, ce qu'il dit, c'est que c'est une idéologie qui est hostile à l'émancipation des femmes et dont le but est la conservation des privilèges masculins et de leur position de pouvoir dans la société. Ça, c'est la définition d'une personne qui a vraiment étudié le masculinisme, dont c'est vraiment le travail, et qui a écrit notamment un livre, mais il a écrit des thèses, il a écrit plein de trucs. Donc voilà. Mais par contre, elle est présentée par les masculinistes eux-mêmes comme un mouvement de la défense des droits des hommes. Donc, pour comprendre en fait ce décalage entre les deux, il faut intégrer que en fait c'est une idéologie qui est basée sur une croyance centrale. Et leur croyance, en fait, c'est que les femmes, aujourd'hui, elles auraient plus de droits que les hommes. Et qu'en fait, les hommes, aujourd'hui, subiraient des discriminations. Donc, en fait, qui seraient les vraies victimes aujourd'hui. Donc ça, c'est vraiment le truc central. Donc ils voient le féminisme comme une menace. Et donc, selon eux, le féminisme, il est vraiment son but. C'est-à-dire qu'en fait, ils disent en gros que les féministes mentent quand elles disent que c'est pour l'égalité. Pour eux, le but du féminisme, c'est une domination féminine. Donc, ils prônent du coup un retour à la virilité traditionnelle où ils avaient leur vraie place, quoi, en fait. Voilà. Mmh. Après, je peux encore développer, je ne sais pas jusqu'où vous voulez que je développe le...
Non, mais après, c'est déjà pas mal. Et puis, il y a des Twitchers là, qui ont proposé aussi des définitions que tu valideras ou pas. La première est de Prems Kalisso, des misogynes beuillots qui se rassemblent en masse et qui s'organisent pour prôner la masculinité toxique. Et sine qua non.
Oui, dans les faits, c'est ça, hein, dans les faits.
Et qui dit, moi, homme, toi, femme, moi, pisser plus loin que toi, agro.
Ouais, c'est ça. Ouais.
Et du coup, quand tu parles de féminisme, c'est surtout pour faire l'opposition, hein, comme ils opposent la misandrie et la misogynie. Hein, donc, c'est ce que dit Prems Kalisso.
Donc, on peut rajouter quelques petits trucs qui sont importants, parce que ça revient super souvent. Donc, ils sont sur les pages féministes un peu partout. Ils commentent beaucoup, hein. Pour eux, c'est vraiment, on sent qu'ils sont très très investis et c'est vraiment un combat de civilisation. Hein. Ils sont très très investis. Quand ça parle de patriarcat, par exemple, ils vont dire que le patriarcat, il n'existe plus. À part, évidemment, dans certains pays, c'est-à-dire qu'ils vont dire qu'en Afghanistan, ça existe. En général, c'est quand même assez... Enfin, il y a toujours... Enfin, pas toujours, mais... Il y a une certaine dose de racisme, souvent. Hein. C'est-à-dire que c'est... Certains pays, ça se passe mal. Le patriarcat, il est encore là, et puis ça correspond à souvent. Il y a de l'islamophobie, il y a du racisme, ouais, etc. Voilà. Donc souvent, le patriarcat, il n'existe plus. Et ensuite, ils vont concéder parce qu'ils peuvent pas vraiment faire autrement parce que quand même, on a des traces hein, au niveau de historique, on a le code pénal, on a tout quoi. Donc ils peuvent pas vraiment dire que ça existait.
Mmh. Ouais.
Que quand ça existait, tout le monde était content. C'est-à-dire que le patriarcat, ok, ça existait, mais en fait, les femmes, elles se soumettaient avec reconnaissance parce qu'en fait, les hommes, ils étaient gentils et forts et ils les protégeaient. Donc en fait, je le fais, c'est en gros, hein. Après, ils vont t'expliquer ça de façon beaucoup plus, parfois, pas toujours, beaucoup plus complexe, mais en gros, c'est ça. Donc ils vont dire que tout le monde était content parce que les rôles genrés, ils sont naturels. Donc évidemment, hein, tout est binaire. C'est-à-dire que pour eux, l'homme, c'est le pénis, la femme, c'est la vulve, c'est les organes reproducteurs, comme ça. Donc l'hétérosexualité, c'est la norme. Donc tout le reste, c'est anormal. Donc au mieux, il faut le cacher. Et puis au pire, il faut l'éradiquer. Selon le degré de virulence et de violence, parce qu'il y a différents degrés, bien sûr, selon les individus. Et puis donc du coup, ils partent du principe que... ils sont vachement dans l'appel à la nature et dans l'essentialisme. Donc ils vont dire, voilà, de cette biologie va découler toute l'organisation de la société. Donc c'est complètement, c'est farfelu hein, de dire ça, bien sûr, mais pour eux, c'est quelque chose qui fait sens. Et ils vont dire que, voilà, par exemple, puisque les femmes cisgenres ont un utérus, que les hommes, en moyenne, ils sont plus grands et ils sont plus musclés que les femmes cis... Et ben du coup, ces différences-là, elles justifient toute l'organisation de la société. C'est-à-dire que évidemment, leur organisation, c'est au bénéfice des hommes. C'est-à-dire que vraiment, ils vont beaucoup parler de complémentarité aussi. Ça, c'est vraiment un mot qu'ils adorent. C'est pour pas dire ouais, je suis sexiste. Ils vont dire non, mais nous, en fait, on part du principe que effectivement, les hommes et les femmes, ils sont pas égaux. Mais en fait, c'est pas grave, parce qu'en fait, les deux rôles, ils sont complémentaires, et les deux rôles, ils sont importants. Donc, ils vont souvent glorifier la maternité, par exemple, le sacrifice des femmes, etc. Et ils vont beaucoup utiliser des mots comme « oui, c'est noble, vous comprenez pas, vous les féministes, pourquoi vous plaignez, pourquoi parce que les mères au foyer, c'est tellement noble, etc. » Donc, en fait, c'est une stratégie, quelque part, pour faire passer la pilule. Donc, en fait, c'est genre « ok ». Nous, on voudrait que ça revienne à une organisation traditionnelle et qui est donc une organisation qui est discriminante envers les femmes. Mais en fait, c'est pas vraiment discriminant parce que si jamais vous êtes mère, ben c'est vraiment tellement noble. Qui serait capable de dire, ouais, en fait, si je pouvais, je le ferais moi. Je choisirais ça en fait. C'est-à-dire qu'on va réduire toutes les opportunités pour les femmes. On va les assigner un rôle très limité qui est la sphère familiale. Mais en fait, c'est quelque chose de tellement noble en fait. Et donc, il y a tout ce discours-là, quoi. Enfin, après, ouais, il y a plein de trucs.
J'ai l'impression de lire une interview que... Enfin, j'ai lu une interview du président turc. D'ailleurs, c'était les élections, là. Je ne sais pas trop ce que ça a donné, mais...
Deuxième tour, qui parlait
comme ça, justement. Ça... Maintenant que tu me donnes
complètement.
J'ai des bulles qui s'ouvrent dans ma tête.
Mais là, tu vas le retrouver, vraiment. C'est un truc que tu retrouves aussi bien à l'extrême droite aux États-Unis, les mecs comme Trump, etc. Tu vas retrouver ça chez beaucoup de religieux extrémistes. C'est vraiment la complémentarité homme-femme, Dieu nous a voulu complémentaires. C'est vraiment des trucs que tu retrouves. C'est un peu, enfin, ouais, c'est le patriarcat, quoi. Quelle que soit la forme, c'est vraiment ça.
Et puis,
Je me souviens, moi, d'avoir commencé à entendre un peu ces discours masculins il y a une quinzaine d'années, quand on avait des mecs qui commençaient à monter en haut des grues en disant elle m'a retiré mon enfant. C'est à peu près là que moi j'ai dit ça. Et aussi, ils commençaient à parler du privilège féminin parce que eux, ils pourraient jamais porter la vie. Et c'était quand même merveilleux d'avoir ce privilège-là quand on est une femme.
Mais ça revient un petit peu à ce que je disais, la glorification de la maternité. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont plusieurs effets rhétoriques comme ça. On retrouve la même chose avec la galanterie. C'est genre, on vous ouvre la porte, on vous paye un verre.
On porte les courses lourdes.
Ouais. Et donc, du coup, puisqu'on fait tout ça...
Il faut l'équilibre, quoi.
Voilà, en fait, si vous avez moins de droits, vous n'avez pas le droit de vote, c'est pas très grave parce qu'on vous ouvre la porte, quoi. Enfin, il y a des trucs comme ça qui sont, vu de l'extérieur, ça paraît d'une mauvaise foi énorme, mais ils le disent très sérieusement, quoi.
Et puis, je voulais rebondir sur quelque chose, sur les apports dans leur justification de tout ce qui va être physiologique, etc. Quand on voit des peuples, notamment les peuples des îles du Pacifique. Je pense aux Fidji, la Nouvelle-Zélande, etc. Où du coup, on est sur un peuple où cette égalité est plus proche. On a vraiment quelque chose qui va être plus proche de l'égalité. Les femmes sont quasiment aussi grandes et aussi costauds que les hommes. Donc, c'est vraiment... si on avait un équilibre de base, en fait, alors on serait sur un peuple qui serait presque égal des deux côtés. C'est pas on va...
Oui,
Il n'y aurait pas ces physiologies qu'il y a, malheureusement, à cause du patriarcat qu'on a vu dans des grands peuples, comme en Europe ou aux États-Unis, des choses comme ça. Ce patriarcat n'existe... Enfin, est beaucoup moins important dans les îles, donc on peut voir que physiologiquement, on se retrouve avec des hommes et des femmes qui sont quasiment aussi forts et aussi capables dans n'importe quelle tâche de la vie quotidienne, en fait. Donc il y a vraiment un problème.
Je vais rebondir là-dessus parce que il y a un truc qui est important quand même, c'est que même si partout dans le monde, les femmes étaient beaucoup plus petites que les hommes, ça justifierait de toute façon pas une discrimination. C'est-à-dire que leur raisonnement, de toute façon, il est terrible puisque si leur raisonnement, c'est les femmes ont un utérus, donc il faut qu'elles s'occupent, hors naissance et allaitement, il faut qu'elles s'occupent des enfants toute leur vie, qu'elles restent à la maison, ça ne fait aucun sens. Je veux dire, d'où tu détermines toute la vie d'une personne juste parce qu'elle peut donner la vie, effectivement, elle peut accoucher, elle peut allaiter. Et puis pareil pour ce qui est de la taille. Dans ce cas-là, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on compare, je ne sais pas, Serena Williams et Zemmour. Dans ce cas-là, Zemmour, il est assigné à la maison parce qu'il est tout petit et tout frêle. Et Serena Williams, elle... Enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est...
Non, elle va faire les courses, Serena, là. Elle a les bras pour. Hein.
Non, mais tu vois...
Bah oui, clairement, c'est absolument... C'est débile, ça n'a pas de sens, c'est sûr.
Tu ne vas pas commencer à hiérarchiser la société et puis restreindre les libertés des gens selon qu'ils aient plus de muscles, qu'ils soient un peu plus grands. Dans ce cas-là, on ne termine pas, quoi.
On n'est plus à Néandertal.
Je veux dire...
Mais alors du coup, comment on peut qualifier le masculinisme maintenant? J'imagine que il y a aussi un... Enfin, est-ce que ça a toujours existé? Est-ce qu'on peut quantifier les masculinistes? Est-ce que c'est... Comment on peut... Est-ce que c'est une secte? Est-ce que... J'en sais rien. Comment on peut qualifier ça?
Bon, alors moi, j'ai pas tous les infos en tête comme ça, hein, mais j'invite vraiment à lire le livre La crise de la masculinité, justement, qui parle de... Enfin, on peut retracer ce type de crise... qui reviennent comme ça, régulièrement. Mais on a, chez les Romains, on a des écrits comme ça, de gars qui disaient « Ah là là, ça va plus du tout, les hommes sont faibles aujourd'hui, avant c'était beaucoup mieux. » Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'à chaque fois que les femmes arrivent un tout petit peu à acquérir plus d'indépendance ou à grappiller quelques droits, il y a un backlash. Et là, ce qui se passe, c'est que depuis MeToo, en fait, c'est à partir de là que ça a commencé à exploser sur les réseaux. Donc il y a vraiment un phénomène, donc ça existe toujours à chaque fois que les privilèges masculins sont remis en cause. Il y a ça en fait. Il y a une espèce de une crise comme ça, une crise existentielle avec toute une catégorie de une certaine partie des hommes qui vont s'exprimer de façon très bruyante en disant que ça va pas du tout, que c'est la crise de la civilisation.
Il y avait Soral déjà qui disait ça au début des années.
Soral complètement.
Bien sûr. Et puis pour rebondir sur l'aspect, tu disais c'est des groupes, etc. Enfin dans le chat, il y a Brems qui dit ça très bien. Ils sont de plus en plus prolifiques, notamment grâce à un outil qui est absolument incroyable dans les deux sens. C'est Internet avec des applis, avec aujourd'hui la possibilité de créer des communautés, etc. Donc en fait un outil de communication qui permet de communiquer très vite, d'avoir une grande ampleur, etc. Et ça donne un peu dans l'histoire. On a même aujourd'hui des groupes qui ont organisé carrément des attentats.
C'est beaucoup plus vieux les attentats, il me semble.
Oui, mais ça donne, c'est de là en fait. On est vraiment sur des groupes de personnes qui se regroupent, qui ont grâce à des outils de communication qu'on n'avait pas forcément.
C'est une caisse de résonance en fait.
Exactement.
Ouais. En fait, c'est sur TikTok et sur Discord qu'on les trouve le plus. Et quand il y a des masculinistes très connus, j'ai pas trop envie de citer leur nom par contre.
Non, mais c'est bien, on les citera pas, c'est très bien.
Qui a été emprisonné il n'y a pas longtemps et qui est ressorti là. Lui, il était ban en fait de réseau pendant quelques temps. Après, il a récupéré son compte. Et ben, même quand il était ban, le truc, c'est que ces vidéos, elles ont été tellement enregistrées que c'est surtout en fait sa communauté. C'est juste des gars, des individus qui ont reposté massivement tout son contenu. Et donc, c'est des petits clips de 10 secondes où le mec, il sort une punchline. Et donc, ça circule. Et puis, depuis MeToo, ça a explosé, quoi. Ça a vraiment explosé. Et donc, je sais plus, c'est Anaïs qui disait, c'est une communauté ou c'est quoi, je sais plus comment tu disais.
Oui, savoir si c'était ou même, est-ce qu'on peut qualifier ça de secte? Enfin, c'est extrémiste.
Ah oui, ça lui dit sexe. Ouais. En fait, selon moi, c'est vraiment une théorie du complot. Parce que ça coche les cases, en fait. Ça coche les cases. Ce qui se passe, c'est que, par exemple, quand tu leur donnes des chiffres, quand tu leur parles, parce que moi j'ai discuté avec, je pense, des centaines d'hommes qui sont vraiment, qui sont masculinistes, quoi. Donc, quand tu leur donnes des chiffres, des trucs qui viennent par exemple du gouvernement ou des trucs, normalement, tu sais, en général, ils sont pro-police, etc. Donc, tu leur donnes les chiffres du ministère de l'Intérieur, enfin, des trucs comme ça. Et bien là, à ce moment-là, ils vont te dire non, ça ne marche pas, tes chiffres, je les accepte pas, parce que tu. Les institutions aujourd'hui, elles sont corrompues par le féminisme. Donc en fait, j'accepte pas. Donc en fait, tu peux pas. Leur vision du monde, elle est vraiment basée sur cette idée que les femmes aujourd'hui, elles ont le pouvoir. Donc ça correspond vraiment à la théorie du complot. Et puis il y a des choses aussi comme ça qui, par exemple, ils partent du principe que les femmes, elles cachent leurs intentions. C'est-à-dire que les femmes, elles sont vraiment là pour prendre l'argent des hommes, pour leur mentir. En fait, c'est l'argent des hommes et les enfants. Elles utilisent les hommes pour ça, et c'est leur but. Et ils vont par exemple dire « Oui, regarde, toi, ta femme t'a quitté, c'est bien la preuve qu'elle t'a jamais aimé. » Donc c'est complètement, c'est hallucinant. C'est-à-dire qu'on peut très bien aimer quelqu'un pendant 10 ans, et tout à coup, enfin voilà, après on n'aime plus la personne. Mais en fait, ils vont avoir des discours comme ça. C'est vraiment ça qu'on lit. Tu vois, elle t'a quitté. T'as jamais aimé, c'est bien ce qu'on dit.
C'est des défauts de confiance en soi. Hein. Enfin, je pense que ces personnes-là, il faudrait aller chez le psy. Hein.
Oui, ouais, et puis pour rebondir sur... Oui, clairement, là, il y a un problème d'estime de soi, et puis il y a aussi y a un manque d'éducation, il y a beaucoup de choses. Hein. Mais moi, du coup, je voudrais rebondir sur ce que tu disais, Pylvie, sur le fait qu'effectivement, c'est des groupes, etc. On sait qu'il y a différents courants dans cette idéologie masculiniste. Est-ce qu'il y a des courants plus représentés que d'autres, notamment sur ta page? Est-ce que tu en parles de plus d'autres, enfin, certaines catégories, courants
Moi, j'ai de tout sur ma page. C'est-à-dire que ça va vraiment... ça va être, par exemple, l'incel. Je ne sais pas si j'explique...
Vas-y, rapidement,
tu peux, oui, effectivement.
En fait, c'est des hommes qui se qualifient eux-mêmes comme des célibataires involontaires. Donc, c'est vraiment c'est une branche du masculinisme. Et c'est une branche qui est très violente, très, très misogyne.
C'est,
donc vraiment,
c'est eux qui, dans les années 60-70, ont eu un de leurs représentants qui a fait un massacre dans une université québécoise.
C'était en 1989.
C'était pas si vieux, en fait.
C'était à Montréal, t'es pas obligé de tout connaître. Hein.
Et après, il y a eu Breivik aussi en Norvège qui faisait partie.
Alors lui, c'était un peu différent. Il était misogyne, mais lui, en Norvège, c'était surtout grand remplacement, le gauchisme, etc., etc. Donc, C'était plus un truc d'extrême droite, okay. Genre les progressistes. Il a visé une. C'était un rassemblement d'étudiants, en fait.
L'université d'été socialiste, je crois.
Voilà. Ouais,
il a visé surtout des femmes. Et là, il y a quelques jours, il y a eu aussi un mec dans une tuerie aux États-Unis qui a visé exclusivement des femmes. Hein.
Mmh. Ouais. Alors, je pense qu'il a tué pas que des femmes, mais en tout cas, on a retrouvé, effectivement, il avait chez lui, et puis il avait en ligne des propos qui. Enfin, il se qualifiait lui-même d'incel, si je me souviens bien. Mais il y a eu plusieurs, hein, il y a eu plusieurs attentats. Donc là, c'est pareil, je ne vais pas citer le nom des personnes parce que je n'ai vraiment pas envie de leur faire de la pub. Mais en gros, je trouve que, enfin, il ne faudrait même pas qu'on connaisse leur nom, en fait.
Mais non, mais c'est très bien.
En 2014, donc, il y en a un qui est devenu un héros, hein, en fait, vraiment, dans beaucoup de cercles masculinistes. Donc, c'est un jeune homme qui avait au début de sa vingtaine, qui a vraiment laissé un manifeste, il a écrit un long truc. Il a tué 6 femmes, il y a eu 14 blessés. Donc lui, il avait revendiqué, hein, c'est genre, de toute façon, je ne peux pas avoir de femme alors que je suis parfait, donc si je ne peux pas avoir ce que je veux, bah, vous allez mourir, il y avait ça. Il y a eu aussi en 2018, à Toronto, pareil, un mec dans la vingtaine qui il a foncé sur la foule avec une fourgonnette. Il a tué 10 victimes, dont 8 femmes. Il a fait je ne sais pas combien de blessés. Donc pareil, il a laissé un message en expliquant que le féminisme, c'était horrible, etc., etc. Et donc leur but, c'est clairement de faire peur, quoi. Mais ces gens-là, alors je termine en disant, ces gens-là, en fait, ils sont considérés par les masculinistes comme des mecs qui sont allés, certes, un peu trop loin, mais ce sont des hommes quand même qui ont beaucoup souffert et donc du coup, ils ont été poussés à bout par la société d'aujourd'hui qui est tellement féminisée, etc. Donc ils sont quand même vus un peu comme des martyrs. C'est bon, ok, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas tuer des gens, mais quand même, on comprend leur douleur. Et puis si ça continue comme ça, on va être de plus en plus nombreux à faire ça parce qu'on n'en peut plus. C'est ça en fait.
Je pense que c'est les mal aimés. La transition, elle est parfaite dans le chat. Et puis moi, c'est une phrase que je trouve vraiment forte. La misogynie tue, la misandrie non. Parce que souvent, en fait, les masculins vont faire l'opposition avec la misandrie. On pourra en parler peut-être un chouï plus tard si on a du temps.
Je peux rebondir sur un truc là-dessus après. Je suis à terminer, après je peux rebondir.
Mais ouais, c'est ça. En fait, aujourd'hui, la misogynie qui est portée dans l'idée masculiniste, elle tue et pas dans l'autre sens en fait.
Voilà. Ils vont essayer de faire croire que ça tue.
Exactement.
Et c'est ça qui est intéressant. Ouais.
En faisant par exemple. Suicide parce qu'on est mal, c'est pas parce qu'on a été poussé à bout par sa femme qui nous a quitté. Enfin, il y a un moment, c'est pas ta femme qui t'a tué, c'est toi qui as choisi de.
Ouais. Je peux rebondir sur deux trucs, justement donner des exemples. Ouais. Donc par exemple, donc concernant ce phénomène-là, où justement la misogynie, elle tue réellement. Hein. En France, c'est tous les 2 jours et demi, tous les 3 jours. Donc, c'est assez terrible.
Ça a accéléré en plus.
Ouais. Et ils vont essayer de trouver des façons de mettre la balle au centre. C'est-à-dire que, par exemple, ils vont tout le temps faire des procès d'intention et des hommes de paille. C'est-à-dire qu'ils veulent vraiment, vraiment. On a beau leur dire, hein, moi, ça m'est arrivé plusieurs fois. C'est-à-dire qu'on me dit, de toute façon, tu détestes les hommes. Alors, quand je dis moi-même, non, c'est pas le cas, on me dit si. Donc, ils n'écoutent pas du tout. Moi, j'ai beau leur dire, bah non, non. Et ben en fait, ils me disent, tu me dis ça, mais c'est faux, tu mens. Donc en fait, ils veulent absolument on est censé détester les hommes, et ils vont nous faire dire des choses. C'est-à-dire, par exemple, il y a un truc qui a beaucoup tourné, je pense que c'était il y a 2-3 ans. C'était quand Alice Coffin avait sorti son livre. Alors ça a été du pain béni pour eux. Ils ont pris une phrase. Je ne sais pas si vous voyez ce bouquin, Le génie lesbien.
Oui, génie lesbien, oui.
Ouais. Donc en fait, dans ce bouquin, elle aurait dit, selon eux, qu'elle voulait supprimer les hommes. Alors ça, cette phrase, elle a fait tout le tour. Regardez les misandres. Si les féministes prennent le pouvoir, elles voudront nous tuer, etc., etc. Nous mettre dans des banques à sperme, nanana. En gros, hein. Et en fait, moi, je l'ai le bouquin. Je l'ai même acheté parce que j'avais lu cette phrase-là et je me suis dit, attends, j'ai l'habitude avec ces gars. Je me suis dit, en général, quand tu lis un truc qui est trop gros, c'est que c'est pas vrai.
Exactement.
Donc j'ai acheté le bouquin et je l'ai lu. Qu'est-ce qu'elle dit dedans? Elle dit que toute sa vie, elle a consommé, entre guillemets, des produits culturels qui étaient produits par des hommes et qu'elle a pris une décision qui était, à partir d'une certaine date, de ne soutenir plus que les femmes, de supprimer les hommes de ce qu'elles consomment en produits culturels. Il y a quand même une énorme différence entre supprimer physiquement des hommes et puis décider en gros, de faire un boycott et de soutenir les femmes qui produisent, je ne sais pas, qui écrivent des livres, qui font des films, etc. Donc c'est sa décision personnelle, donc elle n'est même pas en train de dire « faites toutes comme moi », elle explique juste que elle, c'est ce qu'elle fait. Et les gars, ils ont pris cette phrase, et cette phrase, elle a tourné partout. Et les mecs ne sont pas allés vérifier, et donc selon eux, Alice Coffin, c'est « ah !» De toute façon, ils ont aucune preuve, donc ils s'accrochent aux branches tout le temps, comme ça, et ils sortent des phrases de leur contexte. Il y a un autre truc aussi qui est terrible, c'est qu'ils vont instrumentaliser le suicide des hommes, et ça c'est vrai que c'est un vrai problème pour le coup. Il y a vraiment il y a plus de deux fois plus d'hommes qui se suicident que les femmes, donc c'est un vrai problème. Ils vont instrumentaliser ça, parce qu'en général c'est pas des mecs qui vont faire de la prévention, ils vont pas s'occuper du suicide des hommes à part quand ils parlent aux féministes. Ils vont dire par exemple que les violences conjugales, donc des hommes envers les femmes, c'est pas si grave que ça finalement. Parce que ce dont on ne parle pas, c'est les violences psychologiques des femmes sur les hommes. Et ça, c'est la cause de la, on va dire, surmentalité par suicide des hommes. C'est-à-dire que les femmes, et ils le disent comme ça, ils disent que les femmes, en fait, elles sont tellement perverses qu'elles poussent les hommes au suicide. Et que du coup, c'est comme, en fait, c'est la même chose qu'un féminicide. C'est, en fait, elles vont, c'est un homicide par un petit peu détourné, par procuration, parce qu'elles sont vraiment très malines. Et ça, ils le disent.
Oui, bien sûr, bien sûr. Ouais. Ce fameux livre dont tu parles, Génie lesbien, c'est le deuxième de la série hein, qui avait été visé par Alf Zurelmi, qui est le chargé de mission au ministère égalité homme-femme. Et le premier film qui avait été, enfin le premier livre qui avait été visé, c'était Moi les hommes, je les déteste de Pauline Armange, fin 2020.
Je l'ai aussi.
Et du coup, effectivement, ces livres ont été complètement. En fait, c'était du pain béni, comme tu l'as dit. C'est deux livres hein, que je vous conseille.
C'est de l'homme de paille. Exactement. C'est vraiment du procès d'intention. Il n'y a aucun des gars qui l'a lu ou s'ils l'ont lu. S'ils l'ont lu, ils le font, c'est la mauvaise foi. Quoi.
Oui, puis ils ont lu en diagonale.
Ils ont lu le titre en librairie, ils ont pété un câble.
Ouais,
et voilà,
ça.
Quoi.
Enfin, ouais,
c'est ça. Et du coup, par rapport. J'essaye d'avancer aussi sur nos questions parce que je vois l'heure qui défile.
Ouais, parce
et, n'hésitez
4
pas d'ailleurs
minutes,
si vous avez.
4 à 6 minutes, pas plus. Hein.
Ouais, si vous avez des questions sur le chat, merci de les formuler sous forme de questions pour qu'on les relève aussi et qu'on les cite, qu'on les pose à Pylvie. Moi, je voulais quand même savoir si tu te mettais des limites par rapport à ton contenu, si à un moment donné, je sais pas s'il y a une peur à avoir, mais par rapport à ça, est-ce que tu cours un réel danger par rapport à tous ces masculinistes qui sont quand même ultra virulents parfois ?
Moi, je pense qu'en vrai, il y a un danger. C'est-à-dire que je ne sais pas si vous avez suivi l'affaire de l'influenceuse qui s'appelle Too Much Lucille.
Ça me dit rien.
Non, mais ça me
c'est,
dit rien.
Elle, c'est, bah, écoute, c'est, en fait, elle a une interaction qui ressemble énormément à celle que j'ai très régulièrement. C'est-à-dire qu'il y a un gars, donc ça c'était il y a 2 ans, il y a un gars qui lui a envoyé un DM. Elle avait partagé une photo d'elle, je crois dans le RER ou un truc comme ça. Elle avait déjà pas mal d'abonnés, elle est peut-être à l'époque, je ne sais pas, 60 000, 100 000, peut-être plus, je ne sais plus. Et donc, il lui a envoyé un DM où il disait « Regarde, t'es une pouilleuse, tu dors sur un lit superposé, tu prends le RER. » Il lui a dit ça. Donc ça, c'est le genre de message que je reçois tout le temps, hein, des mecs qui m'envoient des messages complètement comme ça, où ils t'insultent, ou alors ils te disent que t'es nulle, que t'es pas belle, que ceci, cela. Et donc, elle lui a répondu avec humour. Ça, c'est vraiment ce que je fais. Elle lui a juste dit « Oui, mais en attendant, je te bats à la bagarre. » Elle lui a juste dit ça. Et à partir de là, le gars, il a pété un plomb. Il a fait... Non, mais c'est pas drôle. Hein. Il a fait 2 fois de la prison. Il la stalk tout le temps. C'est-à-dire que le mec, il n'a pas de vie. Toute sa vie, il la passe à la suivre partout. Elle a tout essayé. Elle a dû quitter son travail. Elle a dû déménager. Elle va souvent à l'étranger. Il la retrouve tout le temps. Et donc, en fait, ce gars-là, il a fait déjà 2 fois de la prison. À chaque fois, il ressort au bout de quelques mois. Mais il a menacé ses amis avec un couteau en vrai. C'est-à-dire qu'il s'est retrouvé devant des amis à elle pour qu'ils disent ouais. Donc c'est vraiment donc c'est ce genre de gars qui en fait pour eux le fait d'être entre guillemets ridiculisé, c'est-à-dire qu'une femme qui va juste un petit peu on va dire se foutre de sa gueule un petit peu gentiment comme ça c'est trop, c'est une blessure narcissique et à partir de là il faut qu'ils rétablissent leur image d'eux-mêmes et pour rétablir leur image d'eux-mêmes là je fais un petit peu de la psychologie de comptoir mais d'après tout ce que j'ai lu c'est quand même. Enfin, après, vous faites vos recherches vous-même, mais ça paraît très, très plausible que ce soit très souvent ça, en fait. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu vas t'opposer à un homme, comme eux, dans leur tête, les hommes sont censés être supérieurs aux femmes, si toi, en tant que femme, tu résistes ou tu te moques d'eux ou tu leur dis non, il faut qu'ils rétablissent leur dominance et ils sont prêts à faire de la prison, ils sont prêts. Il y en a qui vont jusqu'au meurtre justement, ouais, parce que c'est plus important pour eux de rétablir leur image d'homme dominant et le reste ça passe après quoi. Ça donc oui, c'est dangereux. Moi j'ai reçu, j'ai reçu pas mal de trucs. Hein.
Oui, et puis bah, après, comme dit Prems, de toute façon, même lui-même il le sait, malgré tout ça, il craint rien en fait, parce que bah, il va faire un peu de prison au pire et puis il va ressortir et puis voilà quoi.
Ouais. Il sera pas condamné. Et il a dit en prison. Il a dit, c'est un codétenu qui avait dit ce gars-là en question, il avait confié un codétenu, de toute façon je la tuerai.
Ouais. Ça me rappelle une sordide histoire qu'on avait eue à Orléans. Je passais mon diplôme de DUT il y a presque 20 ans et. En même temps que moi, dans le bâtiment d'à côté, une jeune femme passait aussi son diplôme de DUT et un mec à qui elle avait dit non pendant 2 ans de DUT est arrivé pendant sa soutenance et lui a tiré 3 coups de Winchester qu'il avait acheté sur Internet à l'époque.
Je peux faire un petit truc là-dessus aussi.
Et c'était, moi, ça m'avait particulièrement perturbé et c'était une fille qu'on connaissait tous. C'était... elle en est morte. Voilà, la misogynie, une fois de plus, a tué à... À 2 mètres, elle avait 18 ans, quoi.
Horrible.
C'était. Horrible. Pardon pour le moment, ça remonte, ça pop un peu, mais c'était pas évident. Il nous reste.
Les féminicides, c'est ça en général.
Oui, bien sûr.
Oui, ça part de. Ouais, ça part de
il
ça,
nous reste pour... 2 minutes, j'aimerais qu'on conclue par une anecdote rigolote que tu as pu partager, qui t'a valu une petite suspension temporaire de ton compte, mais on a été là pour le faire réactiver.
Ouais,
est-ce
marrant.
Que tu peux nous raconter cette histoire ça. Parce que vraiment.
Merci. S'il y a des abonnés là, qui m'écoutent.
On était là, t'inquiète pas, on était là.
Oui, tout le monde, tous ceux qui ont. Ouais, c'était super, franchement, parce que le premier, je suis pas arrivée à le récupérer, mais là, il y a eu vraiment une grande mobilisation. Il y a eu plus de 150 personnes qui ont signalé plusieurs fois et j'ai récupéré mon compte au bout de 48 heures. Donc ça, c'était vraiment génial.
Il y a plein de gens qui disent dans le chat, on est là, on était là, on était là.
Oh, c'est trop cool. Mais en tout cas, là, il y a plein de trucs qu'on aurait pu encore dire, donc c'était un peu...
On peut peut-être organiser une partie 2, on verra, c'est pas contre...
Oui, de mon côté, c'est bon en tout cas, mais j'ai une super commu. Vraiment, j'ai un compte qui n'est pas très grand, mais c'est, pour moi, c'est vraiment génial. Je partage les conversations qui sont en général les pires, parce que c'est ça qui est intéressant à analyser. Et puis parfois, il y a des trucs un petit peu... malgré tout, c'est un peu divertissant. Mais les 95% des messages que je reçois, c'est des messages top. Et les gens, ils sont vraiment, vraiment super sur ma page. Donc voilà, je voulais remercier aussi ma communauté.
Et puis rendez-vous dans le Vercors.
Ça donne du baume au cœur, mais t'as raison.
Rendez-vous dans le Vercors.
Merci beaucoup. Merci.
Vous voulez une anecdote rigolote ou pas ?
Vas-y, on va.
Celle d'aujourd'hui, peut-être.
Vas-y, raconte-nous.
En fait, je reçois peu de dick pics. C'est-à-dire que c'est un peu contre-intuitif, mais j'en reçois relativement peu parce que les gens qui en envoient, en général, ils aiment bien choquer. Et ils se disent que si moi j'ai des photos comme ça, un peu dénudées, etc., je ne vais pas être choquée facilement. C'est comme ça que ça fonctionne dans leur tête. Donc ils m'en envoient peu. Mais quand j'en reçois, ce que j'aime faire, c'est j'aime leur envoyer. Donc c'est ce que j'ai fait aujourd'hui. Donc ceux qui sont sur mon compte, ils ont vu ça dans ma story. Je leur envoie des photos de vers solitaire in situ, donc ou alors je leur envoie des photos de verrues anales. Aujourd'hui, c'était un prolapsus que j'ai envoyé. Donc ça, c'est après je me fais insulter, on me dit que je suis dégueulasse. Voilà, tu sais ce que ça fait de recevoir des photos que t'as pas demandé. Donc ça, c'est mais bon.
Enfin, le prolapsus, c'est pas ça. Cool. Hein.
Le prolapsus.
Merci.
Et beaucoup. On rappelle que l'envoi de dick pic, c'est considéré comme une agression sexuelle.
Oui, c'est interdit par la loi. Je crois que c'est 750 euros.
750 et c'est punissable. Voilà. C'est punissable par si ça a répété. On peut même aller carrément sur de la prison au sursis.
Oui.
Oui, voilà. Donc ça peut être sympa de prendre des petits screenshots si vous en recevez et puis voilà, de monter au créneau, il y a pas de problème.
Oui, d'ailleurs c'est Étincelle qui a fait un post comme ça que vous pouvez copier-coller et puis renvoyer à chaque fois que vous recevez une dick pic.
Oui, c'est vrai.
Force à Étincelle, j'adore aussi.
Ouais, moi aussi j'adore.
Merci beaucoup. Je suis désolé, il faut qu'on conclue. On va se quitter en musique si ma machine se réanime. Merci beaucoup Pylvie d'avoir répondu à notre invitation.
Oui, merci Pylvie.
Un vrai grand moment incroyable. On fera certainement une partie 2 d'ici 2-3 mois. On reviendra, on te réinvitera parce que.